Devoir d'Anna Mérino. Alors, un devoir un petit peu contrasté. Il y a des choses que tu sais, mais la structure n'est pas tout à fait celle qui était attendue. Et puis, je pense que sur la première partie, enfin, c'est assez déséquilibré hein, quand tu regardes ton devoir. Et puis, je pense que tu n'as pas eu le temps de finir, c'est ça, puisque tu laisses la place entre la deuxième partie et la conclusion. Enfin, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Et puis, tu perds du temps. C'est pas très clair dans la première partie. Hein, sur la première partie. C'est pas très clair sur les responsabilités de la crise. Je crois que tu minimises la responsabilité des Soviétiques et tu surévalues donc celle des Américains. Alors, on regarde ça ensemble si tu veux bien. Donc, pour l'introduction, ça va, à part que Khrouchtchev est secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, hein, il n'est pas président. Donc, ça ne faudrait pas faire la faute quand même en introduction. La crise de Cuba marque un tournant. Alors, j'aurais bien aimé que tu montres ce qu'était ce tournant. Ben, on passe à la détente. Hein. Et donc, ici, après cette crise qui intervient quand même, et en introduction, ça aurait été bien de le dire, après une autre crise, celle du mur de Berlin en 1961. On va passer à une phase plus calme hein, donc, des relations internationales, vu cette diplomatie au bord du gouffre qui a été pratiquée hein, donc, pendant la crise de Cuba. Donc voilà, donc, nous verrons d'abord comment la crise de Cuba aboutit à une tension, d'accord, menaçant le paroxysme, puis comment les deux grands affirment leur volonté de garder le contrôle de la crise, oui, et puis surtout réussissent à négocier, et surtout de la part... c'est bien cette histoire de contrôle de la crise, parce que c'est ce qu'on nous montre dans le deuxième document, hein, donc de la part de l'URSS. Alors, je suis un petit peu surprise après que toi, les deux lignes qui suivent, tu fasses 1, 2, 3, 4 fautes, hein, donc c'est bizarre. Donc je tourne. Voilà, alors Cuba, alors tu expliques, et tu as raison, hein, Cuba, tout comme l'Amérique latine, restait considéré... Alors, arrière-cour, précaré, mais donc pas l'arrière-jardin. Hein, donc voilà. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais il faut corriger ça. Une partie du monde entièrement dépendante des États-Unis. Oui, ils appellent, les Américains l'appellent l'hémisphère occidental. Hein. Et donc tu dis Cuba d'abord. Alors là, tu te fourvoies. Hein, Cuba n'a jamais fait partie du bloc de l'Ouest. Hein, donc Cuba, c'est un pays du tiers-monde. Hein, et donc et puis après, mais Cuba, c'est une dictature militaire. Donc effectivement, hein, soutenue par les États-Unis, mais bon, pas vraiment intégrée dans le bloc. Hein. Elle est sous la domination américaine. Bon, si c'est comme ça que tu voulais le dire, bon. Alors, l'URSS va profiter du fait que les États-Unis ne se soient pas méfiés, voilà. Alors, changement de bloc. Non, ce qui se passe, c'est que la prise de pouvoir par Fidel Castro va favoriser, effectivement, lui, il est pour davantage d'égalité, justice sociale sur son territoire. Et donc, petit à petit, il s'éloigne des États-Unis hein, et les Soviétiques en profitent pour nouer une alliance, hein, ou du moins pour le soutenir. Hein. Alors, prise de conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prise de conscience ? Ben, c'est le fait que les Américains, se soient un petit peu interrogés sur... la réforme agraire menée par Castro, mais surtout, il commence à se méfier, et puis là, c'est la baie des cochons, hein. Je crois qu'en 61, tu pouvais dire déjà qu'ils avaient poussé les anticastristes à débarquer et à prendre le pouvoir, hein. Donc, et ça a été l'échec total. Hein. Je pense qu'il aurait fallu que tu utilises davantage le document 1. Donc, il y a eu survol donc, du territoire, ça, on ne voit pas, hein. Survol par des avions espions, les U-2, donc... les voyons avions espions américains du territoire cubain. On se doutait de quelque chose, le renseignement est là. Hein. Et donc il y a eu constatation qu'il y avait des rampes de lancement. Hein. Donc des rampes de lancement de quoi ? De missiles. Donc tu expliques ce que sont ces missiles, quelles villes ils peuvent atteindre, et que le discours de Kennedy, donc document 1 ici, le révèle de manière... très médiatique, très théâtralisé, hein, donc au monde entier, mais surtout d'abord aux Américains, hein, qui sont tous équipés de télévision et qui suivent mot à mot le discours de Kennedy. Alors Kennedy, en plus, se montre très ferme, hein, donc c'est un test pour lui. Il veut rassurer à la fois son administration, sa population et ses alliés pour dire qu'il est capable, hein, donc de tenir tête à l'URSS. Ben, c'est un test, vu qu'il s'est complètement trompé, enfin, il s'est grave échec de la baie des cochons hein, au début de son mandat. Donc, il est très ferme, et il menace même, enfin, il menace, il dit qu'il n'aura pas peur, que s'il le faut, il utilisera la bombe nucléaire, quitte à ce que ça laisse même aux Américains, que ça ne leur laisse qu'un goût de cendre hein, dans la bouche. Donc ils utilisent ces termes-là. Alors, ici, c'est toute cette crise que j'aurais voulu que tu montres. Dans une deuxième partie, je pense qu'il aurait fallu montrer la négociation, hein, donc ici, comment elle se résout. Puis dans une dernière partie, ce que tu montres un petit peu ici, mais la façon dont on s'adresse, hein, dont Khrouchtchev essaye de calmer les nerfs de Castro, qui sort bien qu'il a été le dindon de la farce hein, dans cette histoire. Bon, alors là, j'en ai profité pour te montrer le plan, donc je reprends ici ton devoir. J'étais partie de Khrouchtchev président de l'URSS, je t'avais dit que non. Ce rapprochement, hein, donc ici, c'est par la suite concrétisé avec l'armement de Cuba par l'URSS. La réaction états-unienne ne se fera donc pas attendre, comme nous le montre le discours du président Kennedy. Alors là, je ne suis pas d'accord, hein, donc parce que, tu vois, tu dis que Khrouchtchev parle de Fidel Castro comme un camarade, armement de Cuba, en fait, il faut que tu montres que, ici, il y a le discours du président Kennedy, attention à la chronologie, hein, donc ici, le discours de Kennedy, le 22, il est antérieur hein, donc au message de Khrouchtchev. Hein, donc, voilà. Et que le soutien militaire de l'URSS, effectivement, a commencé dès le printemps, si je me souviens bien, hein, donc de 62, pour l'acheminement des rampes de missiles. Ce rapprochement marque donc un tournant dans la guerre froide. Non, pas du tout. Le tournant de la guerre froide, c'est l'issue de la crise, hein, donc, qui va mener à la détente. Donc je ne suis pas d'accord. En effet, les États-Unis étaient plutôt épargnés par leur territoire. Donc voilà. Donc là, tu expliques la situation géopolitique de l'époque. Effectivement, j'aurais commencé par ça. Donc moi, j'aurais pas parlé de changement de bloc. Hein. Et enfin, donc tu expliques que les missiles étaient à quelques centaines de kilomètres de leur ville, d'accord, de leur cité. Alors tout ça, je suis d'accord. Il aurait peut-être fallu le dire avant. Pour faire face à la menace, les États-Unis vont provoquer Cuba en violant des normes élémentaires du droit international. Bon, ce qu'évoque Khrouchtchev, c'est peut-être... c'est certainement la baie des cochons, en 61. Hein, donc c'est une violation des normes élémentaires du droit international, effectivement. Je te rappelle tout de même hein, que ce n'est pas les Américains qui interviennent à Cuba en 61. Ils poussent des anticastristes à le faire. Hein. Mais là, c'est la rhétorique classique hein, qu'on utilise, rhétorique diplomatique. Hein, évidemment, on accuse l'autre de tous les maux. Hein, voilà. Les États-Unis ont envoyé... Alors, tu dis que les États-Unis provoquent. Non, ils surveillent le territoire, de toute façon, hein, donc, de façon aérienne. Et donc, ils regardent, ils regardent si on retire ou pas les rampes, etc. Ils ont envoyé des avions pour survoler le territoire. C'est pas vraiment de la provocation. Hein, donc, donc, la provocation initiale, c'est l'installation de missiles soviétiques au cœur de l'hémisphère occidental, puisque là, l'URSS sort de sa zone d'influence. Et donc, elle a tenté, elle échoue. Hein, parce que ces provocations ont pour but d'intimider les Cubains et de les faire renoncer au bloc soviétique. Alors, je pense que les faire renoncer au bloc soviétique, ça va être compliqué, mais les faire faire surtout... En fait, ces provocations, ces vols, ils sont adressés à l'URSS pour dire « Regardez, on surveille et ne continuez pas l'installation. » Pendant ce temps-là, et ce que tu ne nous dis pas, c'est qu'il y a des négociations entre les États-Unis et l'URSS. Et donc, ici, il aurait fallu insister sur le nombre de messages qu'on voit. Hein, donc, comment et qu'est-ce qu'ils obtiennent ? Eh bien, je ne sais plus où tu l'as mis. Est-ce que tu m'as parlé du blocus de l'île, de la quarantaine ? Je ne crois pas que tu l'aies. Je cherche, mais je ne vois pas. Et donc, il aurait fallu avoir donc la résolution de la crise. Hein. Alors... tu dis qu'en dernière partie, les deux grands cherchent à éviter un nouveau conflit mondial, je suis d'accord. Ils vont tenter par l'intimidation de reprendre la main sur l'influence soviétique en volant sur le terrain. Les États-Unis montrent ce dont ils sont capables, hein, ce qui est logique. Hein, donc ici, mais en envoyant. Ah voilà, je cherchais des navires autour de l'île. Donc montre bien ici, afin de montrer leur capacité à s'opposer hein, plutôt donc à la menace soviétique. Donc c'est une quarantaine, un blocus. Hein. L'URSS, elle, cherche à éviter le dérapage. Et là, tu montres bien, c'est la dernière partie de ce petit paragraphe qui est intéressante, tu montres bien qu'elle cherche à calmer, hein, donc ici, et de façon amicale, de façon presque condescendante, de par revers la bêtise. Hein. La bêtise, c'est quoi ? D'avoir justement abattu un de ses avions espions la veille, hein, donc au-dessus de... du territoire de Cuba. Et donc, elle serait victime par la suite, lors de la négociation d'un potentiel accord. En fait, il a déjà eu lieu. Ça y est. Elle est en train de, Cuba est en train de faire capoter l'accord là, avec ses actions intempestives. Donc, il se fait gronder Castro par Khrouchtchev qui évite de calmer le jeu et de maîtriser ses nerfs. Hein. Et donc, j'aurais voulu quand même que tu insistes là-dessus. Alors, conclusion marquante. Elle montre que les tensions sont fortes. Et j'aurais bien voulu que tu annonces ici quand même la détente. Hein. Donc ici, on est au sommet des crises de toute cette période 47-62. Et qu'ensuite, eh bien, les deux grands vont comprendre l'intérêt d'une négociation directe. Donc l'intérêt d'être clair dans les intentions. Et puis, ils vont exercer une forme de domination sur les relations internationales en maîtrisant chacun donc, leurs alliés, très secondaires. La preuve, regarde ici. Et donc après, par contre, je ne comprends pas ton ouverture, le paradoxe des démocraties libérales prônées par les États-Unis, c'est très mal dit, et le fait que pour éviter qu'un autre pays latino-américain ne tombe dans le communisme, elle ait mis en place le plan, c'est l'opération Condor aussi, hein, donc bien sûr, mais bon là c'est la domination de son aire d'influence traditionnelle en Amérique latine, hein, c'est essentiellement ça, mais tu sais que l'URSS ne fait pas autrement dans son aire d'influence de l'Europe orientale. Hein. Donc regarde le printemps de Prague. Donc là, c'est tout à fait... c'est mal dit, c'est peu pertinent. Hein. Alors, Anna, il y a des choses, hein, quand même. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que finalement, il y a à peu près les trois points principaux, ils sont vus. Mais ils ne sont pas bien développés, ils ne sont pas toujours assez analysés. Et donc, ce n'est pas très bien structuré, tout ça. Hein. Il faudrait faire plus de rigueur dans l'organisation du plan. Avec se dire que quand tu as une grande partie puis une petite, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que tu t'en doutais. Hein. Et donc, comment faire ? Eh bien, scinder en deux un thème. Hein, regarde, si tu n'as pas moyen de le faire. La crise et sa négociation, par exemple. Hein, donc, moi, je vais vous proposer sans doute un plan en trois parties. Hein. Donc je te mets il y a des choses quand même hein. Donc ici je pense qu'on est autour de 11 hein, donc 11 entre 10 et 12 11 moi je pense que voilà on va voir ce vers quoi je vais tendre à la fin mais il y a des choses qu'il faut exploiter, il faut se faire confiance et essayer d'appliquer les conseils que je te donne aujourd'hui pour se préparer encore mieux pour le deuxième galop d'essai. Donc, tout est possible.